I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
2,21 gigawatts! Mon Dieu!
Recherche, scalaire.
Fred, qu'est-ce que tu fais dans cette tenue?
Chut, Jamy, je mène une enquête.
Alors ça, c'est très tordu, mais bougrement intelligent.
Sixième Science, un podcast 20 minutes et science et avenir.
Ces pauvres cons s'imaginent qu'ils vieilliront comme le vin. Si ça veut dire virer au vinaigre, d'accord. Mais si ça veut dire se bonifier avec l'âge, mon cul.
Mais vous êtes si vieux, Jafar.
La princesse doit c'est.
Salut, c'est Romain du podcast Sixième Science. Une fois n'est pas coutume, nous avons coupé un épisode en deux. Vous écoutez donc la deuxième partie de notre entrevue avec le neurologue Yves Agide, la spécialiste en neurosciences du magazine Science et Avenir Elena Sender et l'experte santé de 20 minutes Anissa Boumediene. Vous pouvez d'ores et déjà écouter la partie 1 disponible sur tous les réseaux. Et sinon, bonne écoute! Anissa?
Ouais, moi je vais vous parler de télomères. Les télomères, c'est un petit peu comme des colliers de perles d'ADN situés à chaque extrémité de nos chromosomes. Et en fait, la longueur de ces télomères va être déterminante pour évaluer notre espérance de vie. À la naissance, et si on a une hygiène de vie saine, on garde des télomères longs. A contrario, si on est plutôt d'un profil sédentaire, qui aime les aliments riche en gras et en sucre, et ben tout ça, ça va venir grignoter la longueur des télomères. Et alors justement, s'il y a un ennemi juré de nos télomères auquel il faut faire la guerre, c'est les sodas. Ça paraît pas grand-chose comme ça, on sait que c'est pas très bon pour la santé, mais consommer simplement 2 canettes de soda par jour, ça va avoir un impact significatif sur la longueur des télomères, ça va vraiment les raccourcir. Et ça se traduit comment en pratique? Par une réduction de l'espérance de vie de plus de 4 ans et demi. Simplement en buvant 2 canettes de soda par jour. Donc si on peut se défaire de cette petite mauvaise habitude-là, on voit qu'au final, les bienfaits qu'on peut en retirer sont quand même importants.
Elena.
Oui, parce que je voudrais juste ajouter quelque chose qu'on n'a pas dit depuis le début. L'idée, c'est pas vivre éternellement. On n'est pas dans la quête de l'immortalité, là. C'est de vieillir en bonne santé.
Exactement.
Et donc essayer de retarder ces maladies chroniques qui peuvent vraiment rendre une fin de vie très difficile.
Et je rappelle qu'au moment où on enregistre, on est encore en plein débat sur la retraite, sur l'âge de départ à la retraite.
J'en parle même pas.
Si on cumule l'âge de départ à la retraite et l'âge de vie en bonne santé, donc à autour de 64 ans, bon, on comprend que c'est un enjeu plus que problématique. Yves Agide, je vous ai vu secouer la tête tout à l'heure.
Je ne secoue pas la tête, je fais un peu de sourire. Non, je pense qu'il me faut que c'est mon devoir ici de me faire un peu l'avocat du diable. D'abord, pour ce que vous avez dit sur les régimes, tout ce que vous avez raconté, les transfusions, etc., il faut faire très attention quand même. Ça fait depuis 2000 ans que ça se fait, ça. Il y a même des cliniques en Suisse où on fait des injections de cellules fraîches. Il y a des gens très bien qui ont, pendant des années, avalé des morceaux de testicules de taureaux, etc., etc. C'est une sorte de mythe. Et là où, scientifiquement, je suis un petit peu embêté, c'est que si vous injectez des protéines par voie sanguine, la première chose qui se passe, c'est qu'elles sont détruites. Elles sont détruites dans l'intestin immédiatement. Donc, tout ça se transforme en acide aminé, puis d'acide aminé, bon, c'est comme si vous avaliez de la viande, au fond, hein. Parce que la viande, c'est effectivement des protéines, essentiellement. Voilà, donc je pense qu'il faut avoir un regard très prudent là-dessus, et dans les start-up, les types essaient de lancer des coups comme ça, je crois qu'il faut être un tout petit peu prudent. Pour le télomère, Vous avez très bien expliqué, c'est absolument exact. Et on a même des médicaments qu'on connaît. On peut limiter la perte de la longueur du télomère. Hein. Le télomère, c'est donc ce bout de chromosome qui se raccourcit avec le temps. Et on peut empêcher ce raccourcissement par ce qu'on appelle des inhibiteurs de la télomérase, peu importe. Et le problème, c'est que si on utilise ces médicaments, eh bien, on obtient des cancers. Alors, c'est très embêtant. Voilà, je le dis tout de suite. Tout ça pour dire que ce que vous avez dit, moi, je reste un petit peu circonspect, mais c'est mon devoir. Mais en même temps, c'est vrai que ce sont des pistes pour l'avenir.
Alors, juste pour rebondir, on parlait de toutes ces mesures d'hygiène de vie, qui sont des mesures de bon sens qu'on connaît tous, mais qu'on a tendance à ne pas appliquer. Voilà. Autre petit conseil, justement, pour chouchouter ces télomères. On dit tout le temps qu'il faut faire un petit peu d'activité physique. Et bien, justement, pratiquer une activité physique régulière, ça permet d'entretenir des télomères d'une longueur qui nous assure une espérance de vie la plus longue possible. D'ailleurs, à titre de comparaison, les télomères d'un coureur de 50 ans font la même longueur que ceux d'un sédentaire de 40 ans. Finalement, il en faut peu pour rester jeune.
Chausser ses baskets.
Pas mal. Alors, on a tourné autour du cerveau pendant une bonne partie de l'émission. On va s'y intéresser avec vous, Yves Agide, qui est vraiment, donc on l'a dit, hein, votre ouvrage s'appelle « Je m'amuse à vieillir » et il est concentré, il tourne autour, lui aussi, du cerveau. En quoi, justement, le cerveau est-il si important dans le processus de vieillissement, même si, justement, on l'a dit, la plupart des maladies de longue durée touchent au cerveau, justement?
Si vous voulez, regardez les gens passer dans la rue. Qu'est-ce que vous allez décider? Savoir si quelqu'un paraît vieux ou pas. Vous voyez des gens avec tous les cheveux tout blancs, qui sont tout ridés, et qui marchent d'un bon pas, et qui parlent avec une voix forte, et qui ont l'esprit clair, et qui n'ont pas de troubles de mémoire. Bah, vous vous dites, celui-là, il a un bon cerveau. Et il peut avoir 80 ans, 90 ans. Vous avez à l'inverse des gens qui... Moi, j'ai rencontré une fois une dame, une centenaire, qui avait une peau de jeune fille. Hein. Cette femme, elle était démente. Elle a perdu la tête. Et elle était toute recrouillée sur elle. Parce que les vrais signes du vieillissement, c'est pas le fait d'être constipé, c'est pas le fait d'avoir de l'arthrose dans les genoux. D'ailleurs, ça se soigne, ça se répare. Même les maladies cardiaques, etc. Mais le vrai problème, c'est... Réfléchissez, regardez. C'est les gens qui marchent lentement. Le pas devient plus court. Le corps se déplace un peu plus lentement, la posture est un peu penchée en avant, l'élocution est plus faible, les gens sont plus lents à répondre aux questions, il y a un retard général, des oublis, on a tous des oublis bénins. Bon, on cherche le nom de quelqu'un, puis ça vous revient le soir en mangeant votre soupe. Bon, ça c'est tout le monde, surtout à partir de l'âge de 50 ans, c'est vrai. Mais quand les gens commencent à avoir... un rétrécissement du champ de conscience, à ne s'intéresser plus qu'à des petites choses autour d'eux. Quand les gens commencent à avoir des oublis pas trop graves, hein, c'est pas comme une maladie d'Alzheimer, on a vraiment des grosses pertes de mémoire, tout ça fait que, sur le plan émotionnel, on devient un peu déprimé, on devient caricatural, en termes qu'on devient taciturne, on devient scrupuleux, on devient un petit peu agressif, on se met en colère pour rien du tout. Sur le plan intellectuel, on perd un peu la mémoire, on a du mal à avoir de la stratégie intellectuelle, les raisonnements un peu compliqués, abstraits, on les fait plus. Et puis sur le plan moteur, je vous l'ai décrit, c'est-à-dire c'est ce que vous voyez quand des personnes très âgées, dont vous vous dites c'est qu'elles sont vieilles, passent dans la rue. Donc c'est ça le vieillissement. Et si vous me permettez, je voudrais vous dire quelque chose. À mon avis, le plus important, outre le fait que le vrai vieillissement, c'est le vieillissement du cerveau, le reste on s'en fout, en plus ça se répare, faut le dire, c'est l'idée que ce vieillissement se fait en pièces détachées. Donc ce que vous avez dit tout à l'heure, chère Elena, ce que vous avez dit, Anissa, c'est très bien, mais vous parliez comme s'il y avait un vieillissement généralisé du tout. On donne des protéines, on fait un régime, on mange pas de sucre, moi je suis un petit peu réticent, comme je vous l'ai dit, sur tous ces sujets-là, mais c'est comme s'il y avait un vieillissement général. C'est pas vrai. Vous avez un vieillissement de certaines cellules intestinales, vous avez un vieillissement de la prostate, hein, les hommes s'en plaignent, vous avez un vieillissement des seins, de la rate, du foie, de la vessie, de la peau, c'est ça qu'on voit, des fanères, des cheveux, les ongles qui deviennent striés, etc. Bon, tout ça, c'est différentiel. Le vieillissement se fait donc en pièces détachées, vous avez certains organes qui vont vieillir et pas d'autres, sur le corps. Mais pour le cerveau, C'est infiniment plus compliqué parce qu'un cerveau, rendez-vous compte, vous avez 100 milliards de cellules dans le cerveau, plus de peut-être 200 milliards de cellules dans le cerveau, avec chacune des vieillissements distingués, différentiels. Certaines parties vont vieillir plus prématurément que d'autres, d'autres vont rester parfaitement saines, ce qui fait que, par exemple, vous allez avoir un comportement dans la rue, vous allez marcher très très bien, mais vous allez avoir des oublis, etc., etc. Et il y a probablement, je pense, dans le cerveau, peut-être des centaines, voire des vieillissements différents de toutes petites parties du cerveau qui font que vous allez avoir des gens qui vont avoir l'air vieux sur le plan moteur, des gens qui vont avoir l'air vieux sur le plan intellectuel, des gens qui vont avoir l'air vieux sur le plan émotionnel. Donc, il y a un vieillissement de nos organes, de notre corps, c'est très bien. Bon, c'est pas très joli. Il faut pas faire les excès de la chirurgie esthétique, hein, quand même. Il faut pas exagérer. Inutile de se mettre de la pommade, un peu d'huile d'olive, ça suffit. Mais enfin, c'est vrai que ça sent mauvais. Mais tout ça se répare. Mais le vrai vieillissement, c'est là-haut. Premier point. Et deuxième point, il faut savoir que ce vieillissement est différentiel. Il se fait en pièces détachées, ce qui est vrai pour le corps grossièrement. Pour le cerveau, c'est d'une complexité immense parce que le cerveau, c'est en petit ce que l'univers est en grand.
Je suis un vieux monsieur. J'ai 46 ans, ma vie est derrière moi, vous m'avez tout pris.
Alors, dans votre bouquin, vous militez pour une préparation, une éducation au vieillissement. Comment on peut se préparer et se conditionner éventuellement, dès aujourd'hui, hein, à vieillir et se dire, aujourd'hui je prépare le terrain pour demain, mais dans mon cerveau.
Je vous remercie pour le mot militant, j'ai toujours rêvé d'être militant, j'y suis jamais arrivé, mais en tout cas, l'idée c'était effectivement de se dire qu'est-ce qu'on peut faire. Parce que le vieillissement de chacune de ces petites parties du cerveau, comme du reste du corps, là on parle en général, c'est lié à quoi? Il y a deux choses, il y a des facteurs de l'environnement. L'éducation, le fait de vivre dans un environnement bourgeois, d'aller au lycée, etc. Puis d'autres, malheureusement, qui vivent dans des situations sociales catastrophiques, des gens qui sont démunis, qui vivent dans des situations insalubres, etc. Malheureusement, il y a des déshérités sur cette terre, et Dieu sait s'il y en a, il y en a beaucoup trop. Et alors ceux-là, évidemment, ont un désavantage considérable. Les gens qui font des travaux de force par rapport à un certain nombre de gens qui ont une vie normale, mais je voudrais dire en même temps qu'à l'inverse, des gens qui ont une vie sédentaire qui ne bougent pas, c'est aussi pas très bien. Donc l'environnement joue un rôle. Mais vous avez aussi des facteurs innés. La vie est injuste. Vous avez des gens, et si vous voulez, qui sont heureux de nature, qui sont plutôt bien faits, qui vieillissent pas, et qui ont un intellect qui va se pérenniser jusqu'à... Alors vous l'avez dit, c'est les gènes tout à l'heure. C'est les gènes, c'est vrai, on a ça dans notre... Il y a des gens qui sont programmés pour vivre plus vieux. Certains parties vont vivre plus vieux. Pas tout, encore une fois, c'est différentiel, c'est en pièces détachées. Mais si tel est le cas, il y a deux choses. Il y a ce qui est vraiment hérité de vos parents, des deux parents, la papa et la maman, mais il y a aussi ce que vous avez appelé l'épigénétique tout à l'heure. C'est-à-dire tout souvent tout ce qui se passe pendant la grossesse. L'ovule et le spermatozoïde ont apporté leur gène, mais ensuite, pendant toute cette maturation du petit bébé, qui dure 9 mois, hein, à partir de zéro, on arrive à 300 grammes pour le cerveau, un bébé qui pèse 2-3 kilos, ou 3,5 kilos. Et pendant cette période-là, il se passe d'un bouleversement extraordinaire. Vous imaginez, si vous êtes là, regardez comment vous êtes, vous imaginez, vous étiez deux cellules au départ, c'est quand même incroyable. Et qu'est-ce qui se passe là-dedans? Vous avez prononcé le mot, c'est très important, cette idée que tout se détruit au fur et à mesure, mais tout se répare. Donc vous avez des enzymes de réparation, des réparations à la fois pour les protéines, à la fois pour les ARN, à la fois pour l'ADN, qui permettent finalement, c'est un miracle qu'on arrive à un enfant, un nouveau-né qui arrive bien formé, bien intelligent, etc. Parce que dans la période de la grossesse, il peut y avoir des accidents, on les connaît. Par exemple, certaines infections chez la femme peuvent entraîner des malformations. Ça, c'est des choses très visibles, évidemment. Et là, c'est la grande pathologie. Mais je pense qu'une des grandes voies, puisqu'on est là pour parler de ça, une grande voie de recherche pour l'avenir, c'est d'analyser très soigneusement ce qui se passe pendant l'embryogenèse, les 9 mois de la grossesse chez l'enfant, où les facteurs innés peuvent être modifiés par petits bouts, par petites choses qui font que vous allez avoir des gosses qui seront, par exemple, un caractère un peu différent et éventuellement des maladies qui peuvent apparaître, ce qu'on appelle des maladies du développement, notamment dans le domaine qui est le mien, c'est les maladies psychiatriques, de l'autisme, ou des gens qui vont bizarrement devenir des délinquants épouvantables, pervers, bizarres. On peut penser que pendant toute la grossesse, donc pendant ce moment d'épigénétique, épigénétique, je le dis, ça veut dire simplement que sur l'ADN, qui est quelque chose de très très compliqué, il y a des petites modifications autour notamment du brin d'ADN qui font que l'expression des gènes et donc des protéines qui vont s'en suivre peut être légèrement modifiée. Mmh. Voilà.
Mais à mon niveau, moi, aujourd'hui...
Vous voulez savoir pour vous, je ne le dirai pas. Je ne dirai rien.
Comment aujourd'hui, en fait, est-ce qu'il faut se
préparer à
vieillir ? Exactement, comment je peux me préparer à vieillir ? Est-ce que c'est... une activité sociale, une activité culturelle, est-ce que, enfin, quels sont les...
Alors, j'ai écrit ce bouquin, je vais vous dire pourquoi, en posant 10 grandes questions comme ça. L'une d'entre elles, c'est celle que vous dites. J'ai peur de gêner, mais c'est les jolies personnes qui sont devant moi. C'est un peu pour aller contre les idées reçues et contre, éventuellement, des sottises qu'on voit ici et là. Donc, moi, mes deux grands mots, c'est, on pourra en ajouter un troisième, c'est action, c'est de continuer d'être actif, c'est le bon sens commun, le bon sens. Il y a une troisième chose que je trouve très intéressante, c'est que les personnes d'un certain âge commencent à se connaître, ce qu'on va appeler l'expérience, mais ils commencent à se connaître, et c'est souvent chez les retraités que les gens se disent « tiens, j'ai raté ma vie » ou « j'ai bien réussi, mais j'ai fait ceci, j'ai pas bien fait ça ». Parce que finalement, les gens rentrent dans la vie, les jeunes gens rentrent dans la vie, sans savoir très bien qui ils sont. Or, quand on rentre dans la vie, il faut s'adapter à l'environnement, la société, elle est là. Vous ne pouvez pas la changer. Vous pouvez peut-être la modifier par vous-même, mais vous ne pouvez pas la changer. Donc, souvent, ça, c'est très important de donner un sens à sa vie le plus tôt possible. Donc, je répète, premièrement, l'action, je trouve bizarre. Si vous voulez, on travaille comme des bêtes à l'école communale, les pauvres gosses là qui restent matin et après-midi avec l'instituteur même, etc., qui apprennent des récitations, ça, c'est dur, hein. Ensuite, on va à l'école, éventuellement un BTS, on va au lycée, ensuite on travaille, regardez-vous, vous êtes là, vous travaillez 10 heures par jour. Bon, d'ailleurs, ça vous va bien, c'est très bien. Mais, et puis tout d'un coup, vous avez des types qui arrivent à la retraite, parfois à 65 ans, parfois... Il y en a même qui prennent leur retraite à 50 ans, là. Et alors, ils sont tout contents, très bien, etc. On s'arrête de travailler, fini. On n'a plus rien à faire. Alors, tout le monde est content pendant un an, deux ans, trois ans. Et puis, généralement, moi, ce que je vois en consultation à la Salpêtrière, c'est des gens qui sont perdus, qui n'ont plus rien à faire. Il y a le vide, ils se sentent inutiles. Alors, il y a des gens, heureusement, qui ont des activités sociales dans des associations, qui font faire des cours, ou qui retrouvent une activité professionnelle d'une autre nature, ou qui s'instruisent, avec l'idée aussi, quand même, je crois, d'être utile pour la société. Hein. Si vous restez chez vous à regarder la télévision, c'est nul. Et puis, c'est nul pour la société, mais c'est nul pour la personne, je vous assure. Le nombre de gens que j'ai vus est comme ça, évidemment souvent très âgés, qui ont perdu un conjoint par exemple, et puis ils sont tout seuls dans une petite maison qu'ils ont achetée là, au milieu de la Creuse. Là. Ils sont à 8 kilomètres d'un village, ils ont vendu leur petit appartement dans l'HLM à Asnières. Et ils sont là, ils sont complètement perdus. Ils n'ont plus qu'une envie, c'est de mourir. Donc il faut lutter contre ça. Donc pour moi, c'est action, bon sens, puis essayer de donner un sens à sa vie.
Okay. Et c'est d'où le terme, quand vous dites s'amuser à vieillir, c'est ça, c'est être un peu entre...
Ça, c'est un quatrième mot, si vous me permettez. J'ai appelé ça « je m'amuse à vieillir », parce que c'est une phrase d'ailleurs de Paul Léoto. Vous voyez qui c'est, Paul Léoto ? Non, c'est un poète.
Excusez-moi, mon inculture.
Un type très intéressant, un grand écrivain. Et Paul Léoto, j'ai lu cette phrase qui m'a fait marrer, il disait « je m'amuse à vieillir, virgule, c'est une occupation de tous les instants ». Ce qui paraît ridicule, si vous voulez, parce que tout le monde a peur de vieillir et puis on ne s'occupe pas que ça. Mais en fait, derrière, c'est profond. Parce que « je m'amuse à vieillir », ça veut dire qu'il faut prendre la vieillesse comme le reste de son existence, avec un sourire, avec de l'humour. Et qu'est-ce que l'humour ? L'humour, c'est... finalement, sourire des choses graves, éventuellement des choses désastreuses d'ailleurs, des désastres, savoir... c'est l'humour juif, entre parenthèses, par exemple, qui essaye de sourire des choses les plus terribles.
Là, en fait, ce que vous nous dites, par exemple, c'est de dédramatiser éventuellement ce qu'est le vieillissement, l'image qu'on en a, et plutôt d'investir cet espace comme un espace de liberté où on peut se prendre en charge davantage.
On peut se prendre en charge davantage, mais il faut le faire, si vous voulez, sans se mentir à soi-même. Je pense que c'est pour ça qu'il ne faut pas raconter des blagues. Il ne faut pas se mentir à soi-même, parce qu'un jour à l'autre, le bon sens vous rattrape. Si vous vous apercevez, quand vous avez 80 ans, que vous avez fait une erreur, vous avez passé 20 ans à vous ennuyer ou à faire ce qu'il ne fallait pas faire, alors que vous n'étiez pas fait pour faire ça, c'est pas évident. La fin de la vie, à partir de la retraite, disons, où les gens ont moins d'activité ou pas d'activité, c'est très variable d'une personne à une autre. La preuve, c'est qu'évidemment, leur cerveau, nous avons tous des figures d'abord différentes, nous avons des cerveaux qui sont tous très différents, très compliqués, mais très différents. Et comment voulez-vous que chacun y ait une règle générale pour chacun ? Donc, il faut adapter sa règle à chacun. Il y a des grands principes généraux. Pour moi, les grands principes généraux, c'est d'être, je vous l'ai dit, d'avoir du bon sens, réfléchir, c'est d'être actif. Le bon sens, c'est pas avaler des excès de nourriture, c'est pas aller gaspiller son argent à faire des stupidités, c'est avoir du plaisir, c'est aussi de rendre service à la société, des choses comme ça. Donc, bon sens, action, se connaître un peu soi-même, et puis avec un certain sourire quand même. Parce qu'il faut savoir, la deuxième phrase, le bout de la phrase est intéressante, c'est une occupation de tous les instants. C'est ridicule. Mais c'est ridicule pour vous, vous n'allez pas regarder, tiens, je viens de passer une minute, je vais en passer encore une autre, puis une autre, non, c'est pas ça. Mais c'est que, quand vous avez 20 ans, vous ne vous rendez pas compte de ce que c'est que le temps qui passe. Si on vous dit, vous avez une heure, vous avez un mois, c'est pareil. Tandis que quand on a 90 ans, le temps se rétrécit, si vous voulez. Hein, à ce moment-là, je ne sais plus qui, je crois que c'est Ionesco qui disait, pour moi, en vieillissant, une heure, c'est une minute.
C'est l'un des premiers épisodes de Sixième Science sur pourquoi le temps passe-t-il plus vite en vieillissant.
Non, moi je voulais faire grec moderne, mais il n'y avait plus de place. Il ne restait que burgonde ou anglais.
Anissa, je crois que tu as le mot de la fin, tu voulais ajouter quelque chose ?
Alors j'en ai plusieurs. Romain, est-ce qu'il y a un pays du globe que tu adorerais visiter ?
Ah bah la Grèce par exemple, oui.
La Grèce, ah, c'est parfait. Alors, pour vieillir en t'amusant ou t'amuser à vieillir, eh ben, je te propose d'apprendre le grec. Alors pourquoi ? D'abord parce que la Grèce est un super pays. J'adore la Grèce. On y mange superbement bien. Les gens sont adorables. C'est beau. J'irai vivre ma retraite en Grèce. Je vous l'annonce.
Sans excès, s'il vous plaît.
Sans excès.
Évidemment. Ensuite, parce que le grec, c'est une langue pas très commune, peu pratiquée en dehors de la Grèce et des pays grécophones. Et du coup, si tu apprends le grec, non seulement tu pourras sillonner le pays et avoir de longues conversations enrichissantes avec les Grecs, et puis ça fera aussi du bien à ton cerveau, parce que apprendre une langue étrangère, ça va stimuler tes capacités cérébrales. Et on l'a vu avec le professeur Agide, c'est important de prendre soin de son cerveau. Et donc, bah, apprendre le grec, ça te permettra d'en prendre soin.
C'est noté, je vais m'y mettre.
Bon courage. Ouais.
Anissa, tu avais encore autre chose ?
Eh oui, on sait que dans les grands commandements qui permettent de vieillir en bonne santé, on parle beaucoup de l'importance du lien social. Quand on vieillit, c'est important de continuer à avoir du monde, avoir ses proches, sa famille, ses amis, les gens de son village dans lequel on a vécu des décennies. On voit d'ailleurs que pour les personnes qui sont âgées en perte d'autonomie, devoir quitter son domicile pour aller dans un EHPAD, par exemple, c'est un véritable crève-cœur. Donc, pour le moral et pour sa santé en règle générale, c'est très important de maintenir ce lien social. Mais comme je le disais, si on a une perte d'autonomie, c'est très compliqué d'arriver à maintenir ce lien social. Sauf si les pouvoirs publics prennent cette question à bras-le-corps. Et là, je vous emmène faire un nouveau voyage.
Allez.
Cette fois-ci en Espagne, dans le petit village de Pescuesa. Si vous allez dans ce village, vous serez interpellé par un chemin bleu qu'on va retrouver dans chaque crue. Alors, ce chemin bleu, en fait, il est doté d'un revêtement antidérapant. Et puis, si on relève un petit peu les yeux de ce chemin bleu, on va voir des barres qui sont fixées à tous les murs du village. Là-bas, à Pescuesa, où la population est vieillissante, la municipalité s'est adaptée à sa population pour lui donner les moyens de rester à domicile, active. Il y a aussi une structure qui a vu le jour, donc qui est financée par la municipalité, la région et l'État. Et donc, c'est dans cet établissement, les personnes âgées vont pour s'y retrouver. Si elles le souhaitent, peuvent y prendre leur repas ensemble, peuvent suivre des cours de gym adaptés à leur âge, mais justement voilà, pour entretenir leur corps, leur morale et leur lien social. Ce centre est aussi doté d'une petite voiturette qui est conduite par un employé de la municipalité, dont c'est le boulot de prendre soin des aînés du village, et qui va les conduire faire leurs courses, les conduire chez leur médecin. Et du coup, on a une proportion assez incroyable de personnes âgées, très âgées. Il y en a plusieurs qui ont plus de 90 ans, qui vivent dans la maison encore aujourd'hui dans laquelle ils ont vécu toute leur vie, et qui peuvent justement y rester malgré leur perte d'autonomie grâce à tous ces services qui leur sont offerts pour permettre de vivre très longtemps, heureux, en bonne santé et entourés de leurs proches.
Eh ben, je suis ravi, on boucle sur...
Tous en Espagne.
Voilà, exactement, tous en Espagne. On boucle sur une note très positive. Alors, on l'a dit, à 15 ans, 30 ans hein, ou 50, il n'y a pas vraiment d'âge pour se préparer à vieillir. Mais comme il faut bien commencer quelque part, je vous renvoie au dossier d'Elena qui est très complet et qui vous fera l'effet d'une cure de jouvence. Vous ne pouvez pas le louper, il fait la une du dossier de Science et Avenir de mars et résume tout ce qu'on s'est dit peu ou prou aujourd'hui, tout en ouvrant de nouvelles portes. Elena, donc j'en profite pour te remercier. Yves Agide, merci à votre tour d'être venu à notre micro. Je rappelle à toutes fins utiles que vous êtes neurologue et que nos auditeurs peuvent retrouver votre ouvrage « Je m'amuse à vieillir » paru aux éditions Odile Jacob en début d'année. Anissa, que dire sinon merci à toi aussi et à très bientôt au micro de 6ème Science, toujours aussi jeune. Cet enregistrement aura suscité une autre prise de conscience. Nous ne sommes pas les seuls à prendre de l'âge. Notre podcast mûrit, lui aussi, dans quelques mois, 6ème Science soufflera sa deuxième bougie. En préparation, 20 minutes lui a offert un beau lifting avec une cover toute fraîche. Alors si vous aimez le logo, le programme ou la qualité de nos échanges, n'hésitez pas à nous appliquer un peu de crème ou d'huile d'olive dans les commentaires iTunes. À dans deux semaines et n'oubliez pas, on envoie la science dans tous les sens.
On ne va pas se quitter comme ça. Vous avez aimé cet épisode ? Sportif, généraliste, sexo ou scientifique, varié mais toujours bien informé. Découvrez les autres podcasts de la rédaction 20 minutes sur votre application d'écoute préférée ou directement sur podcast au pluriel.20minutes.fr. Et merci de nous avoir écoutés.